Cléa Salamé, votre invitée ce matin, est donc directrice générale d'Engie.
Oui, bonjour Catherine McGregor.
Bonjour Léa Salamé.
Merci beaucoup d'être là ce matin, votre parole est rare et on avait beaucoup de questions à vous poser, puisqu'évidemment la question de l'énergie est au cœur de la guerre en Ukraine, et plus particulièrement la question de notre dépendance au gaz russe. On rappelle, et c'est important, que l'Union européenne importe de Russie 40% de son gaz, que c'est surtout l'Allemagne qui en importe, et que pour nous en France, on achète en gros 20% de notre gaz en Russie. Pour l'instant, ça continue. Aucune des sanctions que l'Union européenne n'a prises ne touche à l'heure actuelle le gaz russe. On continue d'en importer et même ça augmente. Depuis le début de la crise ukrainienne, on a augmenté nos importations de gaz russe, ce qui peut sembler étonnant.
Alors, peut-être en préambule, je veux quand même partager avec vous et avec nos auditeurs le fait que, évidemment, le groupe Engie, qui s'est prononcé, ainsi que son conseil d'administration, a condamné, bien sûr, l'invasion de l'Ukraine à titre personnel. Et je pense que je peux parler aussi au nom des collaborateurs d'Engie. Nous sommes évidemment bouleversés par ce qui se passe sur le terrain et par les images que nous avons tous vues ce week-end. Donc déjà un préambule. Deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, Léa Salamé, c'est que quand vous dites 40% de l'Europe qui dépend de la Russie pour ses importations russes, c'est vrai que c'est 40% pour certains pays, c'est 90% voire même 100%. Donc c'est vraiment une part absolument majeure. Et donc, cette dépendance, elle est très difficile à arrêter du jour au lendemain. Donc, très, très difficile à arrêter sans préparation, sans mesures de substitution et bien sûr, sans préparer les marchés.
Alors, quelques questions concrètes. D'abord, avons-nous à ce stade, aujourd'hui, suffisamment de réserves pour nous chauffer en France et en Europe? Et jusqu'à quand on a des réserves?
Alors, très concrètement, aujourd'hui, nous allons pouvoir passer l'hiver, bien sûr, puisque l'hiver touche à sa fin. Le vrai problème, c'est ce qu'on appelle à moyen terme, c'est-à-dire pour l'hiver prochain. Et pourquoi? Parce que on utilise l'été pour remplir les stockages.
Et là, les cuves vont être vides dans quelques semaines.
Exactement, puisque à la fin de l'hiver, les stockages sont en fait très faiblement remplis, bien sûr, puisqu'on a utilisé le gaz. Et donc, on attend l'été pour remplir ces stockages. Donc, si une décision devait être prise d'arrêter l'approvisionnement de la Russie, alors le remplissage de ces stockages serait mis à mal, serait insuffisant, et donc le début de l'hiver prochain, nous n'aurions pas suffisamment de gaz par rapport aux années précédentes.
Vous avez entendu Dominique Seux, le gaz et le pétrole sont les principales sources de revenus de Vladimir Poutine et de son régime, ce sont ses meilleures armes. Tous les jours, il faut savoir que l'Union européenne, la Grande-Bretagne, les États-Unis achètent pour 700 millions d'euros aux Russes de matières premières, le pétrole, le gaz, l'aluminium, le charbon, 700 millions d'euros qu'on donne aux Russes tous les jours. Tous les jours, 700 millions. N'est-on pas du coup en train de financer indirectement la guerre de Poutine en Ukraine? N'est-ce pas un problème d'envoyer tous les jours de l'argent au régime russe alors qu'on prétend vouloir asphyxier l'économie russe? Et vous avez entendu ce que dit le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Le pétrole et le gaz russes ont l'odeur du sang ukrainien.
C'est, Léa Salamé, évidemment une question qui me taraude, moi, bien sûr, personnellement et en même temps. Quand on est un acteur énergétique comme Engie, un acteur majeur, on a également une responsabilité. On a une responsabilité de service public, on a une responsabilité envers nos clients et on ne peut pas du jour au lendemain, bien sûr, décider d'arrêter d'acheter du gaz et surtout de fournir nos clients. Donc, une décision de cette envergure, bien sûr, doit être une décision politique qui doit être prise au niveau européen. C'est très important également de comprendre que on a un réseau européen. Donc, en fait, la question, elle ne se pose pas pour la France seulement, bien sûr, mais bien pour l'Europe et l'ensemble de l'Europe.
Alors, justement, il va y avoir jeudi prochain un sommet à Versailles. La question de l'énergie sera au cœur de ce sommet avec les 27. Si jamais, ils décidaient à la fin de la semaine de dire, eh bien, on va aller jusqu'au bout, et jusqu'au bout, ça veut dire toucher aux importations de gaz et de pétrole. On ferme le robinet. Quelles conséquences ça aurait directement pour Engie en France, pour les Français, mais pour les Européens?
Alors, bien sûr, nous nous conformerions si telle décision devait être prise. Alors, il y a vraiment deux types de conséquences. Il y a une première conséquence qui est sur les prix de l'énergie, qui atteindrait, le jour où cette décision devait être annoncée, des prix extrêmement élevés. Ils sont déjà hauts, hein, Dominique Seux l'a dit tout à l'heure.
Ils sont déjà très hauts. Donc, ce matin, dans Les Échos, vous donnez une interview aux Échos, vous dites, vous parlez d'un scénario extrême. Ça veut
c'est
dire
un scénario extrême parce qu'il y aurait une telle volatilité que les marchés, finalement, pourraient cesser de fonctionner. C'est pour ça que c'est important d'anticiper ces mesures. Et c'est pour ça que nous mettons sur la table des mesures qui permettraient, en fait, de plafonner la hausse de ces prix et donc une idée assez concrète de plafonnement des prix du gaz en anticipation d'une telle mesure. Donc ça, c'est sur les prix des marchés. Après, sur les marchés physiques, donc comme je vous l'ai dit, tout de suite, là, demain, il n'y aura pas vraiment d'impact parce qu'on a finalement assez de gaz pour finir l'hiver. Par contre, encore une fois, à moyen terme, pour l'hiver prochain, si une telle décision devait être prise, alors l'hiver prochain, on pourrait venir, l'Europe pourrait venir effectivement à manquer de gaz. Donc il faudra prendre un certain nombre de mesures, des mesures qui sont déjà anticipées par les gouvernements et les pouvoirs publics, hein, puisqu'il y a une liste de choses qu'on pourrait faire concrètement pour limiter la demande, par exemple.
Par exemple, on pourrait demander aux usines de réduire temporairement leur consommation de gaz. On pourrait demander aussi aux Français et aux Européens de se chauffer un peu moins, de baisser d'un degré. C'est ça qui est sur la table, hein, de baisser d'un degré leur température à la maison de chauffage. Si on baissait tous d'un degré, ce serait quoi combien on économiserait de gaz?
Ça correspondrait à peu près à 12-15 TWh, donc c'est l'équivalent de 12-15 navires méthaniers qui arriveraient en France, donc ce qui est pas négligeable du tout. Donc c'est une mesure qui pourrait marcher. Effectivement, encore une fois, un scénario extrême, mais des mesures qui pourraient permettre de limiter la demande. Et en même temps, bien sûr, on travaille sur l'offre. Parce que là, on parle de la demande, donc des mesures qui devraient être évidemment organisées. On ne va pas faire n'importe quoi. Hein. Le gouvernement déciderait quelles mesures et quand. Et puis nous, de notre côté, bien sûr, on travaille sur l'offre pour essayer de diversifier nos sources d'approvisionnement. Et je veux absolument parler du biométhane.
Mais c'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Parce que est-ce qu'il faut aller beaucoup plus vite sur d'autres sources, les énergies vertes notamment, vous parlez du biométhane. Est-ce qu'il faut aller beaucoup plus vite et mettre le paquet dessus?
Absolument. Il faut accélérer le biométhane et évidemment les énergies renouvelables, hein, que j'espère, bien sûr, la société regardera différemment. Aujourd'hui, quand on parle des éoliennes, tout le monde lève les yeux au ciel. Les éoliennes, c'est de l'énergie locale, avec des ressources quasiment infinies, qui coûtent, une fois installées, quasiment plus rien. Donc il faut y aller. Accélérons dans les énergies renouvelables.
Parce qu'il y a d'autres pays, l'Italie par exemple, dit si on est acculé, on rouvrira nos usines à charbon. Ça peut être l'autre option qui est évidemment un coût écologique.
Alors, moi je pense que le charbon doit autant que possible rester tabou, vraiment. Je pense qu'il faut accélérer dans le biométhane et je pense qu'il faut accélérer dans les énergies renouvelables.
L'autre question, l'autre lieu, enfin, où est-ce qu'on peut acheter du gaz aujourd'hui? C'est l'Algérie, n'est-ce pas?
Alors, il y a l'Algérie, il y a la Norvège, bien sûr, il y a les États-Unis.
Il faudra aller de plus en plus vers ces pays-là et de moins en moins vers
la Russie. Alors certains nous livrent, bien sûr, du gaz par gazoduc et puis d'autres par gaz naturel liquéfié. Et donc là, il s'agit de travailler sur les capacités d'importation en Europe, donc nos terminaux, potentiellement augmenter leur capacité d'importation et de gazéification.
Catherine McGregor, les prix du gaz flambent depuis des mois, bien avant le début de la guerre en Ukraine. Est-ce qu'ils vont continuer à grimper dans les prochains mois, quelle que soit la situation géopolitique, que la guerre continue ou pas?
Alors, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une tension qui fait que, effectivement, les prix du gaz risquent d'être assez tendus pendant encore un moment.
Pour faire face à la crise, l'Agence internationale de l'énergie propose de taxer les bénéfices exceptionnels des énergéticiens pour protéger les consommateurs vulnérables. Vous avez fait une très belle année 2021. Vous avez annoncé 3,7 milliards de bénéfices nets. Comptez-vous contribuer davantage pour aider ceux qui galèrent?
Alors, aujourd'hui, on a, bien sûr, le gouvernement a mis en place des mesures assez exceptionnelles, avec en particulier un tarif et un bouclier
bloqué
pour le gaz, hein, un bouclier tarifaire qui, bien sûr, affecte le groupe Engie en particulier sur sa trésorerie. Donc, nous contribuons à cet effort, bien sûr, et nous regarderons toutes les mesures que nous pouvons faire. Et puis, je rajouterai peut-être, pour revenir sur l'Ukraine, hein, simplement pour saluer le nombre d'initiatives que nous prenons, nos collaborateurs prennent, en particulier dans les pays limitrophes, parce que nous avons
pour aider les réfugiés,
pour essayer d'affréter des camions remplis de médicaments. Nous avons 4 500 collaborateurs en Roumanie, donc qui sont, j'allais dire, très très impliqués et engagés pour aider les réfugiés, effectivement.
Il y a des collaborateurs en Russie aujourd'hui, Denis ?
Nous avons très peu de collaborateurs en Russie.
Merci beaucoup. Merci Catherine McGregor d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la seule femme à diriger une entreprise du CAC 40 à ce jour, puisqu'il y en a deux qui arrivent à la tête d'Orange et de Veolia dans les prochaines semaines. Merci et belle journée à vous.
Merci pour votre invitation.
France Inter.